séance de questions-réponses, merci d'éteindre vos téléphones et de vous présenter en donnant votre nom complet et votre organe de presse avant de poser vos questions, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que nous avons avec nous le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC chargé des opérations à l'Est, le général Abdallah Wafi. Et aussi à Goma, nous avons le chef du bureau à Goma, Rey Torej, qui pourra aussi répondre à vos questions. On va commencer aujourd'hui par Goma. La première séquence de questions viendra de Goma. Goma.
Oui, merci pour la parole. C'est Hortense Tabakou, Digital Congo. Nous venons d'apprendre il y a quelques minutes qu'un drone vient de cracher à l'aéroport de Goma. On veut savoir si l'autre drone était déjà opérationnel et même les informations que contenaient ces drones étaient déjà partagées. Une autre petite question. Il y a un temps, les experts des Nations Unies avaient estimé à 200 ou 300 le nombre des combattants du M23. Les autorités ougandaises, elles, avaient parlé d'environ 1000 ou plus de 1000 combattants M23 ayant pris sur le sol ougandais. Je voulais savoir, aujourd'hui, les Nations Unies, notamment Martin Kobler et Mme l'envoyée spéciale Marie Robinson, souhaitent les rapatriements ou l'intégration de ces combattants. La question est de savoir sur quels chiffres faudra-t-il se baser. Merci.
Merci beaucoup. La première question sur les drones, colonel Bass.
Oui, merci pour votre question. Effectivement, je confirme votre préoccupation, car ce matin, aux environs de 10 heures, nous avons enregistré un accident d'un aéronef sans pilote sur l'aéroport de Goma de retour d'une mission. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ni de morts. C'est un incident qui, comme tous les incidents qu'on enregistre du point de vue de l'aviation, nous sommes en train de poursuivre, de mener des enquêtes pour savoir, pour déterminer avec précision quelles sont les causes techniques liées à cet incident-là. Donc, nous aurons beaucoup plus de détails dans les heures à venir que nous pourrons mettre à votre disposition. Mais oui, nous confirmons qu'effectivement, nous avons eu un crash d'un des aéronefs sans pilote ce matin à l'aéroport de Goma.
Merci. La deuxième partie, je le passe au général Wafi. Sur le nombre.
Oui, par rapport au nombre des éléments du M23 qui ont fui suite à la défaite militaire du M23 pour se réfugier en Ouganda, comme vous le savez, effectivement, il y a des chiffres contradictoires qui circulent. Sans vouloir prendre parti dans cette polémique, je voudrais simplement rappeler que suite aux accords ou disons, en tout cas, la conclusion des pourparlers de Kampala tels que signés à Nairobi, les éléments congolais doivent, après l'amnistie, bénéficier d'un traitement dans le cadre du DDR. Le moment venu, naturellement, des procédures seront mises en place pour déterminer, identifier qui est congolais parmi ces éléments, qui doit bénéficier du traitement DDR et qui est étranger, ougandais ou rwandais ou même burundais. Et à ce moment-là, je pense que la presse et l'opinion publique internationale sera située exactement sur les conclusions de ces travaux.
Merci. Une deuxième question de Goma.
Ok, c'est Daniel Maurice pour les comptes de Canal 7, c'est ça. La MONUSCO veut s'assurer que les éléments incontrôlés des FARDC ne puissent pas constituer un danger pour la population civile dont elle a une mission de protéger. Et ne faites-vous pas confiance aux FARDC ou comment? C'est ça la question.
Je n'ai pas compris. On n'a pas compris la question. Est-ce que tu peux la répéter?
La question est celle-ci.
Ici, monsieur.
La MONUSCO veut s'assurer que des éléments et contrôlés des FARDC ne puissent pas constituer un danger pour la population civile et dont elle a mission de protéger. Et aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que la MONUSCO ne fait plus confiance aux FARDC?
Bon, oui, écoutez, votre question est quand même assez ambiguë, mais je vais essayer de répondre de façon tout aussi ambiguë. Je pense que, d'abord, la MONUSCO n'est pas là pour faire la police en lieu place. Les FRDC sont une armée régulière d'un pays souverain. S'il y a des éléments incontrôlés, il appartient à la hiérarchie des FRDC, à la justice militaire, de prendre action contre ces éléments.
Merci. Troisième question de Goma.
Oui, c'est Norbert Mounouba pour la radio-télévision Kaden. Pour tous les incidents sécuritaires précités par le colonel Basse et qui ont évité, bien sûr, les vies humaines, ma question est de savoir est-ce que c'est l'inefficacité de ces drones ou une expérience du personnel à MONUSCO qui favorise le résultat moins invisible de ces engins sans pilote.
Écoutez, nous venons d'enregistrer cet accident, ce crash de cet appareil, de ce drone, sur l'aéroport de Goma. Naturellement, comme vous le savez, il y a des procédures internationalement reconnues pour mener des investigations dès qu'un appareil aérien s'écrase. Ces procédures ont été mises en œuvre. Les enquêtes détermineront les raisons, les causes techniques ou non de cet accident. Alors, en l'état actuel des choses, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de confirmer cet incident, mais les enquêtes ne viennent que commencer maintenant, à l'instant même. Donc, arrêtons de spéculer, attendons les résultats de ces investigations, elles seront portées à la connaissance du public.
Merci. On, maintenant, ici à Kinshasa, on commence ici à ma droite. Attendez, on va vous donner un autre microphone.
Mehdi Medeb, TV5 Monde, France 24. Martin Kobler a parlé de la résurgence du recrutement du M23 et des activités du M23 en Ituri. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails? Merci beaucoup.
Vous faites certainement allusion à ce qu'a dit le représentant spécial au cours de son briefing au Conseil de sécurité hier. Effectivement, ce que je peux vous dire au stade actuel des choses, c'est que d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a dans les pays voisins des activités encore de ce qui a été le M23. Parce que pour nous, je le rappelle, le M23 n'existe plus. Officiellement, le M23 a fait une déclaration pour mettre fin à sa rébellion. Mais nous constatons malgré cela qu'il y a des activités, y compris parmi les éléments qui ont fui Tianzhou dans des pays voisins. Le représentant spécial a saisi l'occasion pour porter cette information à la connaissance du Conseil de sécurité et pour lancer un appel aux pays voisins dans le cadre de l'accord de paix et de sécurité, des engagements pris au sein de cet accord, pour qu'il n'y ait aucune résurgence, parce que cette résurgence sera inacceptable. Et pour votre gouverne, je vais vous rappeler rapidement ce à quoi ces États sont engagés, à travers l'accord cadre. 1. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Et enfin, ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous le régime de sanctions des Nations Unies. Est-ce que ceci est respecté? Alors, nous avons saisi le Conseil de sécurité et porté à la connaissance de la communauté internationale pour que ces dispositions-là soient respectées. Maintenant, pour en revenir à l'Ituri, là aussi, je pense que, effectivement, les informations qui nous sont parvenues, il y a des éléments résiduels à la suite de l'effondrement du M23 qui sont allés dans tous les sens. On vous a signalé l'attaque de Pinga par le groupe de Tcheka avant-hier nuit. Il y avait des éléments du M23 avec lui. Nous avons décelé la présence de certains éléments du M23 dans l'Ituri. Dans l'Ituri, il y a deux groupes armés qui sont très actifs, c'est le FRPI de Cobra Matata et un autre groupe criminel dirigé par un notre criminel du nom de Morgan Paul Sadala, notamment à Mambasa et dans la réserve Ipulu. Certainement, ces éléments, peut-être incontrôlés, qui les ont rejoints pour essayer de se recycler dans d'autres activités criminelles. Mais en tout état de cause, nous continuons à suivre la situation et, le moment venu, nous allons faire de plus en plus état des informations que nous avons sur le terrain.
Merci. On continue ici à ma droite.
Philemon Longonia pour la RTGA Télévision. J'aimerais savoir, par rapport à la réponse du représentant spécial adjoint, quelles sont les dispositions prises aujourd'hui en attendant, vous êtes parti au niveau du Conseil de sécurité pour rendre compte de ce qui se passe dans les pays voisins. Est-ce qu'il y a des dispositions concrètes prises sur terrain pour sécuriser, pour que d'autres attaques ne puissent pas survenir au niveau des pays voisins? Deuxième question, vous avez parlé dernièrement, lors de la conférence de presse, des infiltrations des éléments armés venant de la République centrafricaine. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau de l'Équateur et au niveau de la province orientale? On n'en a pas fait allusion.
Merci. Pour en revenir à votre question, en ce qui concerne, vous disiez tantôt, l'infiltration à partir de certains pays voisins. Ce que je voudrais rappeler, c'est ce que je viens de dire. Pour nous, le M23 n'existe plus en tant que tel. Si demain, il y a des résurgences de groupes armés à partir de dans cette zone, ou se revendiquant de ce groupe armé, tout le monde saura d'où ils viennent et qui les a armés. Mais pour nous, aujourd'hui, le M23 n'existe plus. Et donc, les dispositions qui sont prises, c'est plutôt pour engager les autres groupes armés tels que les FDLR ou les ADF, et d'autres groupes Maïmaï comme celui de Tchéka. Voilà les dispositions qui sont prises pour pouvoir continuer à désarmer et à mettre la pression militaire sur ces groupes armés. Maintenant, pour en revenir à la deuxième question que vous avez posée, oui, nous avons reçu là aussi des informations particulièrement provenant de la société civile en province orientale, faisant état de la présence d'éléments, vraisemblablement de la Séléka, à 500 km au nord de Kisangani. Là aussi, nous continuons à suivre la situation. Pour le moment, il n'y a pas d'attaque signalée par ces éléments-là, mais mieux vaut prévenir que guérir.
Merci beaucoup. On continue à droite. On va donner à une dame, là. Oui, je sais qu'il y a des gens à gauche. Ah, a posé sa question, ici, à droite.
Merci. Mon général, l'année passée, la MONUSCO avait lancé des opérations simultanément dans la province orientale pour toucher les PCD et les RA. Vu la situation humanitaire, c'est comme si les LRA sont toujours actifs dans la province orientale. Maintenant, quelle est la retombée de ces fameuses opérations? Merci.
Non, il serait pas juste de dire que les activités de la LRA n'ont pas connu une diminution significative. Parce qu'il n'y a pas qu'au niveau de la MONUSCO. Même au niveau de l'Union africaine, il y a des efforts qui ont été faits conjointement au niveau de la sous-région pour combattre les LRA. Particulièrement au niveau de Dungu, dans le district de l'Ituri. Mais encore une fois, je voudrais simplement dire que la situation sécuritaire et militaire en RDC est telle que, comme vous le voyez, l'essentiel de nos forces sont aujourd'hui concentrées à l'Est. Et nous ne pouvons pas être partout présents à la fois. Je rappelle que la force militaire de la MONUSCO, c'est 20 000 personnes. En tout pour tout. Aujourd'hui, avec les opérations militaires qui sont conduites contre les ADF, contre les FDLR, et regardez la situation qui prévaut avec les Katakatanga dans la province de Katanga, nous ne pouvons pas continuer avec la même intensité à traquer les éléments des LRA ou d'autres éléments dans d'autres zones. Voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés.
On repart à Goma pour une deuxième séquence de questions. Goma.
Oui, c'est bien que nous supportons effectivement les Goma. Oui, dans les communiqués de presse du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, il est mentionné que l'attaque des Maïmaï Tchéka contre les villages des Pipa prouve à suffisance qu'il ne peut pas y avoir aucune cohabitation ni négociation avec les groupes armés. Et quand Martin Kobler dit qu'il ne peut y avoir de négociation, cela n'est pas quelque part une contradiction s'il y a une négociation avec le M23 qui est ancien groupe armé, ça c'est un. Deux, c'est que quand vous parlez de l'agressivité des groupes armés comme BAS et nos négociations avec lui, cela veut-il dire que vous pourrez favoriser une négociation avec tout groupe armé qui pourrait se montrer en fait et pacifique et moins agressif que les autres? Deux questions.
La réponse est très simple. La MONUSCO agit sous le mandat de la résolution 2098. Nulle part dans ce mandat, la MONUSCO n'a reçu mission d'aller négocier avec quelque groupe armé que ce soit. Nous ne négocions avec aucun groupe armé. Nous demandons simplement à ces groupes armés, conformément aux dispositions de la résolution, de déposer leurs armes et d'aller au travers le processus de DDR. Sinon, nous maintenons la pression militaire et nous engageons des opérations militaires. C'est ce que nous avons fait, que ce soit avec le M23, avec Tcheka, avec aujourd'hui les FDLR et demain avec les ADF. Nous, la MONUSCO, ne discute avec aucun groupe armé. Maintenant, si vous faites référence au pourparlers qu'il y a eu entre la RDC et le M23 à Kampala, ça, c'est tout autre chose. Mais la MONUSCO n'était pas partie prenante au processus de négociation de Kampala. Voilà.
Merci. Une deuxième question de Goma.
Bonjour, moi je me nomme Roberto Kituka Onge, Kutua Milimani. Et j'ai une question à M. le représentant ici à Goma, pour avoir des explications qui sont peut-être vraies ou faux. Comment est-ce que la MONUSCO peut récupérer des informations après la cache des drones qui viennent de
Je crois que notre représentant spécial adjoint avait déjà en partie répondu. Le crash n'est pas... Pardon ? Le crash, n'est, c'est une sortie de piste. Nous sommes en train déjà de enquêter sur les raisons et sur l'état du drone. Je pense que sur l'état du drone, on le saura assez rapidement. Sur la préservation de l'information qui était contenue dans le drone, c'est évidemment, comme vous l'avez demandé, madame, quelque chose qui nous intéresse au plus haut point. Je partagerai avec vous dès que nous aurons cette information. Mais ça devrait venir relativement rapidement. Merci.
Merci, Ray. Une troisième et dernière question de Goma.
Je m'appelle Cosmos Mungazi Kakola, je suis à Grand Lac. Ma question s'adresse au colonel Félix Mbass, au chef de bureau de la MONUSCO ici à Goma. La question est de savoir quel type de relation la MONUSCO tisse avec Tcheka, qui s'était retiré de Pinga après la visite de la MONUSCO et qui s'est permis d'attaquer la même cité en présence de la MONUSCO et des FARDC sans enregistrer aucune perte en vie humaine.
Colonel Bass.
Oui, merci pour votre question. D'abord, d'emblée, il faut dire tout de suite que nous n'avons aucune relation particulière avec Tcheka. Tcheka est leader d'un groupe armé criminel qui sévit dans la région de Pinga depuis belle lurette. Depuis plus d'un an, Tcheka contrôlait la région de Pinga et des combats récurrents ont été observés, enregistrés pendant toute l'année 2013 entre l'Alliance pour un Congo libre et souverain de Janvier Kariri et Tcheka pour le contrôle de Pinga. À un certain moment, à partir du mois de novembre, aux environs du 25-26 novembre, la MONUSCO a décidé de mettre un terme, justement, à la prédominance des éléments de Tcheka dans la région de Pinga, et c'est ainsi que nous avons initié des opérations et avons dégagé Tcheka de Pinga et avons conservé la mainmise sur Pinga. Nous avions la FIB aussi à Pinga. Ensuite, nous avons redéployé notre unité parce qu'un régiment FRDC a été injecté à Pinga pour prendre en compte la situation sécuritaire. Nous avons toujours notre base opérationnelle à Pinga, contrôlée par le contingent uruguayen. Effectivement, quand je l'ai dit dans mon rapport liminaire, il est clairement établi que premièrement, c'était une attaque surprise comme toute autre attaque surprise. Ça veut dire inattendu, Et deuxièmement, si vous avez bien fait attention, cette attaque n'a duré que 30 minutes. Donc ça veut dire que les velléités de Tcheka n'étaient pas a priori de capturer Pinga, mais de lancer une offensive contre les troupes FRDC qui, fort heureusement, étaient assez vigilantes pour repousser ces assaillants et les poursuivre jusqu'à Katanga, ça veut dire les sortir de la zone de prédilection qu'ils avaient choisie. Donc, il n'y a aucune relation avec Tcheka, c'est un groupe armé. Nous avons reçu mandat de neutraliser tous les groupes armés et c'est à cela que nous nous engageons avec la coopération des FRDC. Donc, Pinga a été recontrôlé, Tcheka est en débandade, et bien, les opérations futures indiqueront clairement quels sont les modes d'action à mettre en œuvre pour mettre un terme définitivement avec les FRDC aux activités de Tcheka.
Ok, on revient maintenant à Kinshasa. Trois questions commencent ici à ma gauche.
Elisabeth Ferrof de RFI, c'est une question pour M. Wafi. Martin Kobler et vous-même avez parlé de l'implication des pays étrangers dans le réarmement et le renforcement de groupes armés. Je vais demander d'être un tout petit peu plus spécifique en ce qui concerne cette implication des pays étrangers. Où est-ce que ça se passe? Quels sont les éléments factuels et les preuves dont vous disposez de où est-ce que ça se passe? Combien de personnes est-ce que ça concerne? Et depuis quand est-ce que ce réarmement a lieu? Est-ce que c'est à Kasséré? Vous avez parlé de l'Itouri, mais en ce qui concerne les pays étrangers spécifiquement. Ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les opérations contre les FDLR n'ont pas repris ou ne sont pas poursuivies depuis l'ouverture de la route qui mène à Pinga, qui a eu lieu en décembre? Merci.
Merci. Je voudrais d'abord, en ce qui concerne la première question, concernant les informations dont a fait état le représentant spécial lors de son briefing au Conseil de sécurité. Sans vouloir rentrer dans des détails trop factuels, je voudrais simplement vous dire que, un, à partir des éléments qui ont quitté Tchanzu lors de la défaite militaire du M23 à ce jour, un, nous n'avons pas, de façon vérifiée et certifiée, le nombre de ces combattants. Première chose. Deuxième chose, nous avons des informations que ces éléments qui, dans un premier temps, auraient été désarmés et cantonnés dans un camp militaire, on les revoit en train de circuler dans des véhicules officiels, certains bénéficiant de traitements qui n'ont rien à voir avec des traitements de gens qui sont en résidence surveillée ou dans des camps, en Ouganda. En Ouganda. Voilà. Sultani Makenga. Il est en train de se promener dans cette zone-là. Il devrait être arrêté. C'est un criminel de guerre. Il est recherché. Il y a eu des mandats d'arrêt contre lui. Il y a eu des demandes de transfert. Il y a eu des engagements dans les accords. Il faut que tous les États respectent les engagements. Voilà. C'est la réponse que je vous donne, madame.
Là, je viens pas.
En ce qui concerne les FDLR, nous continuons, la force de la MONUSCO continue ses opérations contre les FDLR. Mais encore une fois, je crois que sur la question des FDLR, il faudrait préciser un certain nombre de choses. Les FDLR ne sont pas un groupe militaire organisé comme, par exemple, le M23 ou même l'ADF. Les FDLR sont des groupes militaires qui vivent avec femmes et enfants dans des campements, dans des zones souvent difficiles d'accès. Les opérations contre eux ne peuvent pas prendre la même forme que, par exemple, contre le M23 ou contre l'ADF. Au risque de s'en prendre à des femmes, à des enfants et d'avoir des victimes collatérales importantes. C'est pour cela que nous, avant de lancer ces opérations, nous avons besoin d'avoir des renseignements précis et par rapport à cela, nous avons demandé la coopération, la collaboration de tout ce qui peut nous aider à identifier là où ils se trouvent. Donc, encore une fois, nous continuons nos opérations contre les FDLR, mais nous ne pouvons pas entreprendre les mêmes types d'opérations avec des hélicoptères d'attaque pour attaquer des camps avec des femmes et des enfants.
On continue ici à ma gauche.
Merci, c'est Steve Wemby. Sur la question de M23 dans les pays voisins, bien sûr, ceux qui sont au Rwanda, vous avez parlé des activités. Il s'agit de quelles activités? Est-ce qu'ils sont réarmés, ceux qui sont au Rwanda? Ils sont réarmés? Ils ont leur arme ou bien ils planifient une nouvelle attaque pour reprendre leur position. Merci.
ce que je peux vous dire, ils ne sont ni en prison, ni en résidence surveillée, ni dans les camps fermés. Voilà.
Merci. Une troisième question, ici, à ma gauche.
Je vous mets les prêts pour le compte de la plume du chevalier. À travers ma petite question journalistique que j'ai à l'adresse du colonel Bass, je voudrais que celui-ci puisse nous aider à savoir la méthodologie de travail de la MONUSCO durant ces périodes sous-examen, durant lesquelles le climat sécuritaire, s'il n'est pas imprévisible, il est soit volatile, soit précaire. Quelle est la méthodologie de travail de la MONUSCO durant ces périodes sous-examen? Voilà ma question.
Merci. C'est-à-dire que tout au long d'une semaine, nous enregistrons les différents événements qui se passent, les différents incidents qui ont émaillé la semaine, et ensuite nous faisons une évaluation concrète de la situation sur le terrain par rapport aux incidents, par rapport à nos actions, par rapport aux actions des FRDC sur le terrain. Tout ceci combiné nous permet d'avoir une évaluation à la limite exacte de la situation sécuritaire dans une zone. Donc c'est un travail d'abord de collecte d'informations, ensuite un travail de tri de cette information, mais ensuite un travail d'évaluation de toutes ces informations collectées, et ensuite nous les traitons avant de prendre des dispositions pour mettre en œuvre les conclusions de nos évaluations menées sur le terrain.
Merci. Dernière question derrière.
Oui, merci. C'est Serge Mukendi pour le compte du journal Congo et tout et du journal télévisé, le journal de la ville. Ma première préoccupation consiste à savoir, après le crash de cet avion sans pilote, combien en reste-t-il? Combien en reste-t-il? Et la réparation de cet avion pourra prendre combien de temps? Ma deuxième préoccupation, c'est celle de savoir, il y a près de 800 éléments de FRDC qui ont été envoyés en République centrafricaine. Et sur le terrain occupé jadis par le M23, quelle est la situation actuelle sur ce terrain après ce départ?
Merci. Donc je commence par la deuxième question qui est beaucoup plus simple. La situation sur le terrain concernant les zones occupées par les M23, qui étaient essentiellement les territoires de Rutshuru, la situation est sous le contrôle aussi bien des forces armées de la République démocratique du Congo que de la MONUSCO, qui mène des activités quotidiennes pour sécuriser les populations civiles. Maintenant, concernant justement les aéronefs sans pilote, vous savez que nous avons procédé au vol inaugural il y a quelques mois à Goma, sous la présidence de M. Hervé Latsou, qui est le chef du département des opérations de maintien de la paix. Et initialement, nous avons reçu deux engins qui étaient opérationnels dans la province du Nord Kivu. Eh bien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a à peine 1h, 1h30, nous avons enregistré un accident, et présentement, les enquêtes sont en train d'être menées par toutes les autorités aéroportuaires en vue de définir de manière précise quelles sont les causes réelles de cet incident-là. Donc, effectivement, il nous en reste un sur le terrain. Mais n'oubliez pas que des aéronefs additionnels aussi doivent être injectés dans la mission pour apporter une substance additionnelle au travail que font tous les agents de la MONUSCO sur le terrain, aussi bien la force que les sections substantives civiles.
Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Cette dernière question va venir de Goma. Une dernière question très courte.
Merci pour la parole. Moi, c'est Martin Sikuzo, Esquadro, Comico FM. À ce net moment, nous avons un communiqué du M23. Et que ce communiqué, si nous lisons bien la quintessence, le M23 contredit la MONUSCO. La MONUSCO contredit le M23. Et que ma question s'adresse vers le général Abdallah Wafi, qui nie l'existence du M23. Alors qu'à ce net moment, nous avons un communiqué du M23. Voulez-vous nous expliquer ou nous briefer sur l'existence de ce communiqué et pourquoi le M23 s'est donné l'audace de faire sortir ce communiqué? Je vous remercie.
Merci pour votre question. Moi, je voudrais simplement vous dire que en ce qui concerne le M23, il a signé son acte de décès lui-même, attesté par la communauté internationale. Alors, pour nous, le M23, en tout cas en tant que force militaire, n'existe plus. J'ai entendu un monsieur qui prétendait être, je ne sais pas, le président de, ou qui a été le président du M23. Je ne sais pas d'ailleurs à quel titre il parle maintenant, parce que pour moi, encore, le M23 n'existe pas. Donc, s'il y a communiqué, je ne sais pas de quel M23 vous parlez. Mais si c'est celui que nous avions connu dans le temps ici, l'acte de décès a été signé. Pour nous, il n'existe plus. Maintenant, s'il y a résurgence du M23, alors l'opinion publique nationale et internationale, la communauté internationale, en tirera toutes les conséquences. Je vous remercie.
Merci à tous qui avez fait le déplacement. Merci aux auditeurs de Radio Capi que nous avez suivis. À la semaine prochaine.